culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue à notre culte espoir. C'est un plaisir de te retrouver sur les ondes et où que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu évolues aujourd'hui, mais je crois que ce culte te fera du bien. Pour y arriver, je suis accompagnée de Stéphane, de Donovan. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Bon, vous avez préparé pour nos auditeurs des chroniques inspirées et inspirantes, je le crois. Merci pour votre investissement. Alors Donovan, tu nous rejoins pour cette occasion en qualité de chroniqueur alors que tu étais il y a quelques temps avec nous en tant qu'invité du partage biblique. C'est chouette de te voir de ce côté-là.
Merci.
Ça va ?
Oui.
Mais oui, trop bien. Et puis je ne veux pas manquer de vous présenter notre invité du jour, David Redoutmaé.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci. Et toi ?
Bon, on est content de te recevoir avec nous. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour nos auditeurs, te présenter en quelques mots ?
Oui, alors David Redoutmaé, je suis étudiant en théologie à Collonges, en dernière année. Donc, étudiant, pasteur référent, on va dire, à la communauté de Saint-Claude. C'est une église qui se trouve dans le Jura. Donc, voilà. Et content d'être parmi vous.
Super, merci.
Voilà.
Quel est le thème que tu as choisi de nous partager aujourd'hui ?
Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un thème autour des brebis. Hein. Du coup, vous voyez un petit peu quelle parabole, à quelle histoire je vais faire référence, mais avec un angle différent. Voilà.
Ok, on se réjouit d'entendre un petit peu ça dans quelques instants. Je prie Dieu qu'il soit présent durant ce temps de culte et que ce moment soit un encouragement pour nous, mais aussi surtout pour nos auditeurs.
Quand j'ai vu le thème « Jésus le berger et les brebis », la première chose qui est venue dans ma tête, c'est le psaume 23, verset 1. Il le dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce psaume est écrit par le roi David. Mais avant d'être roi, il était quoi ? Un berger. Dans sa jeunesse, il a beaucoup travaillé avec les bergers. Mais revenons à mon verset, David compare le Seigneur à un berger. Donc j'ai décidé de chercher quel était le travail d'un berger. Vraiment, honnêtement, l'image que je faisais d'un berger, c'était quelqu'un qui était assis tranquillement en bas d'un arbre, en voyant ses brebis.
Il fait de la musique.
Tranquille, fait sa musique, tranquille. Il ne fait pas beaucoup de choses. Mais c'est vraiment dans l'ignorance totale. Hein. Donc j'étais voir quel est le travail d'un berger à l'époque de David. Ça peut changer aujourd'hui, parce que c'est plus moderne, mais à l'époque de David, quand il a écrit ce texte. Donc le travail, c'est de trouver les pâturages pour les troupeaux. Le pasteur devait trouver des endroits où les moutons pouvaient paître en toute sécurité et en quantité suffisante, protéger le troupeau des prédateurs. Les moutons étaient vraiment vulnérables aux attaques des loups, des ours et tous les autres animaux sauvages. Donc le berger était là vraiment pour les protéger. Garder en compte précis des moutons. Le berger devait savoir combien de moutons étaient dans son troupeau, pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé, prendre soin d'eux, qu'ils étaient malades, blessés. Et quand ils étaient blessés, quand ils marchaient, ils devaient le porter, le mouton, jusqu'à sur la bergerie, donc c'est beaucoup de travail. Ramener aussi les moutons égarés. Donc quand un petit mouton partait, il devait aller le chercher, le ramener dans le troupeau. Et aussi tondre la laine une fois par année pour qu'il puisse être bien confortable. Utiliser cette laine aussi pour vendre et utiliser. Donc après avoir vu tout ce... Vraiment le travail d'un pasteur, c'est... On va dire que c'est beaucoup. Donc je comprends pourquoi David a comparé Dieu à un berger. Parce que Dieu me nourrit, me connaît. Si je me gare, il va me chercher, il prend soin de moi. Et cela me rassure vraiment d'avoir un Dieu comme celui de David croyait, qui sera toujours là, il est toujours là pour moi.
Merci, alors c'est juste intéressant, je voulais juste intervenir parce que tu as utilisé plusieurs fois le mot pasteur.
Oui.
En lien avec le mot berger, parce que ça a un rapport ?
Oui, pour moi et surtout aussi pas pour ma langue natale, le portugais,
ouais.
Le pasteur, le berger, c'est le... On utilise le pasteur pour être le berger.
D'accord. En fait, ça, c'est quelque chose qui te parle, David ?
Exactement. C'est la raison pour laquelle on parle de pasteur qui gère un troupeau, finalement. En fait, on est les brebis de Dieu. Et les pasteurs, justement, s'occupent du troupeau qui représente les membres, finalement. Donc, c'est bien de revenir à d'autres langues. Ça nous rappelle qu'il y a cette connotation qui est réelle.
Excellent. Merci.
Alors, pour la promesse du jour, j'ai trouvé Apocalypse 7, versets 16 à 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, c'est vrai que moi aussi j'avais une vision de ce qu'était le berger, et pour moi ce verset, il représente vraiment maintenant l'image que j'en ai. Parce que pour moi, un berger, c'est vraiment l'ami de ses bêtes. Il les connaît. Il y a une proximité entre lui et ses bêtes, parce qu'il est tout le temps avec. Et il a aussi ce rôle de protecteur. Et en effet, on voit que Dieu s'attarde sur chacun de nos besoins. Il les comble. Il nous dit qu'il les comblera. On n'aura plus faim, on n'aura plus soif. Le soleil ne nous frappera plus. Et ensuite, il prend soin de nous et nous conduit. J'aime bien le fait qu'il nous conduit, parce que ça montre une vraie proximité. Qu'il est vraiment à côté de nous et qu'il marche avec nous. Et qu'il voit aussi ce que nous voyons sur notre route. Et enfin, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Encore une fois, c'est une proximité, mais c'est plus que ça, c'est carrément une intimité finalement. Parce qu'il vient littéralement essuyer les larmes de nos yeux. Alors pour moi, franchement, il n'y a pas meilleur berger en fait. Afin d'ouvrir nos cœurs, je vous invite à écouter et surtout méditer sur les paroles des chants qui vont suivre. Qui, à mon sens, montre cette réelle intimité avec Dieu, par l'image de ce qu'est le berger.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, Alléluia, Alléluia, devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur, et je chante. Oh.
Tu restes Dieu dans mon désert. tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton.
Nous sommes au culte espoir et nous entrons maintenant dans la chronique Dieu agit. Une chronique qui met à l'honneur la dimension du témoignage sur le thème du jour. Alors aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Luther.
1976, la naissance dans l'église. Les parents, on t'amène à l'école du sabbat, ensuite le culte, partage avec d'autres personnes le samedi après-midi, la jeunesse, plusieurs années comme ça, mais bizarrement plus spectateur que dans l'action. D'origine antillaise, on a une religion qui est peut-être plus vécue avec un dieu plus père fouettard, attention, si tu fais pas ça, voilà ce qui va se passer, plutôt que quelqu'un qui est toujours là avec toi, qui t'accompagne, qui a un regard bienveillant. Et à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions, il y a de la révolte, parents qui se séparent, et du coup, rejet de la religion, des questions auxquelles on ne répond pas, à la maison ou à l'église, parce que c'est des questions qu'on pose également beaucoup à l'église. Il y a des réponses toutes faites. Les questions, c'est pourquoi autant de malheurs si Dieu est là ? Pourquoi moi, personnellement, je dois supporter tout ça alors que j'ai rien fait ? Pourquoi supporter des parents dans la religion avec des soucis ? Quand la réponse est seulement « je vais prier pour toi », ça ne suffit pas à un moment. Donc rejet de ces réponses toutes faites ou du schéma à l'église. On sort de l'église, on sort de ce qui devient peut-être un carcan. Plus envie, tout simplement. Et alors à l'extérieur, on retrouve des gens qui, bizarrement, s'intéressent à nous, nous posent peut-être des vraies questions sur notre vie, écoutent les réponses et amènent des réponses pratiques.
Ça veut dire que tu ne te sentais pas écouté ou accepté dans l'église ?
Pas accepté, pas écouté. Mais pas par tout le monde, encore une fois, je le dis pas par tout le monde, parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, je les remercierai jamais assez, en commençant par ma mère qui m'a jamais tourné le dos, qui a toujours été là pour essayer de répondre, mais on peut pas répondre à tout. Faut être assez honnête et dire, j'ai pas la réponse, et c'est là que rentre la notion de la foi pour moi. Parce que la foi, c'est justement admettre sans pouvoir donner de réponse à tout, mais dire « je crois ». Pour moi, c'est plus fort que moi, il y a quelque chose, il y a une expérience qui fait qu'on croit, et la foi, c'est ça.
Alors là, c'est drôle parce que tu es presque déjà dans ta conclusion.
C'est ça, mais...
C'est-à-dire que tu n'as pas perdu la foi dans ce chemin que tu as eu
perdu.
En quittant l'église.
C'est pour ça que j'en arrive là, c'est que je ne l'ai jamais perdu, dans le sens où tout le monde me demandait « mais t'en es où ?» tout ça. Je le dis haut et fort, je discutais tout le temps avec Dieu. Le matin, en partant au travail, on est sur le scooter, on est dans le casque, il fait froid, la route glisse, et je lui dis « mais pourquoi tu me mets là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je risque ma vie tous les kilomètres, il y a d'autres épreuves. » Je lui dis « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que je suis ton fils ou je suis pas ton fils ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, j'utilise des gros mots, mais je m'engueulais régulièrement, et je continue de m'engueuler avec lui, mais c'est plus bon enfant. C'est de dire « mais il faudra que tu m'expliques, ou je lui demande des comptes. »
Ouais, donc ta relation avec Dieu, elle était quand même teintée de colère
là.
À un moment donné.
Il y avait de la colère, ouais. Il y avait un moment de la reconnaissance, parce que d'où je sors, je ne peux qu'avoir de la reconnaissance. Du coup, voilà, cet extérieur où on se dit, mais est-ce que tu as envie de retourner à l'église ? Pas du tout. Pas pour voir ces gens, pas pour entendre ces réponses que je connais. Au bout de 15 ans, c'est comme si on a fait le tour des réponses. Et je préférais mes discussions franches de l'extérieur que les discussions formatées qu'on avait à l'intérieur de l'église. Ce retour à l'église, il se fait quand même à un certain moment où, bizarrement, tout va bien, ma vie va super bien, je suis heureux. J'ai des enfants, une femme, je m'intéresse à la musique, je suis épanoui et je me dis, tiens, maintenant j'ai peut-être la force de retourner puis de dire vraiment ce que je pense. Et que personne puisse venir me dire « Ouais, mais regarde ce qui va t'arriver, regarde ceci. » Non, il ne m'arrivera rien. Il ne m'arrivera rien et au pire, s'il m'arrive, je réglerai ça directement avec Dieu. Je vais régler, c'est entre lui et moi. Ma foi, ma religion, c'est lui et moi. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas des gens dans cette structure, mais ma relation, c'est lui et moi. Et aujourd'hui, j'ai 47 ans et je trouve que je suis assez fort pour régler ça directement avec lui. Donc, je vais aller à l'église. J'aurai peut-être des remarques, j'aurai peut-être des choses qui vont me toucher, me blesser, mais pas assez pour me faire baisser la tête. Et ma religion ne se vit pas qu'à l'église. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je me sens pleinement épanoui dans ça. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un laps de temps qui est passé où j'ai pas réussi à insuffler tout ça à mes enfants correctement ou à ma compagne. Enfin, mais il y a quelque chose en plus et j'avance avec quelque chose. Et mes amis d'extérieur m'ont toujours dit, mais il y a un truc, qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette foi. C'est que je sais que derrière, et je savais que pour moi, mon chemin, il était jalonné, il était fait. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avance comme ça. Je me dis, tout est jalonné, tout est fait, tout est là et il est avec moi. Mais il faut réussir quand même, et c'est peut-être dur ce que je dis, à dissocier l'Église, les membres d'église, de la foi, de la religion et du chemin qu'on parcourt avec Dieu. Mon chemin que j'ai parcouru, il est personnel et j'ai la tête haute et je suis capable de dire aux gens « Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit là, on peut en discuter. Il n'y a rien qui vous choque dans ce qu'on vient de lire. Pour vous, c'est normal et c'est juste la volonté de Dieu. Non, je suis un être humain, j'ai le droit d'être révolté. j'ai le droit de dire que ça ne me va pas. Et on a le droit d'en discuter. Et il faut pouvoir en discuter, que ce soit avec les jeunes de l'église, avec des adultes. Il ne faut pas tourner le dos, il faut en discuter. Et moi, aujourd'hui, ben, je ne suis pas là pour juger. Et je pense qu'on a tous notre parcours à nous. Mais je pense que la main de Dieu, elle n'est jamais lâchée. Nous, on pense la lâcher, mais lui ne lâche pas. Et il faut juste ouvrir les yeux, se retourner, regarder le parcours et dire « Ouais, il était là parce qu'il y a des fois où j'étais borderline, j'étais limite et il y avait quand même quelqu'un, il y avait quand même quelque chose avec moi. Il y a quelqu'un pour moi, il y a quelqu'un pour toi et il faut avancer comme ça. C'est plus facile quand même. C'est pas comme si je prenais le chemin difficile. C'est quand même vachement plus facile de se dire « Non, je suis pas seul » que de se dire « Non, je vais avancer tout seul dans une épreuve. » Je me dis « Ben, il est avec moi et je vais avancer, c'est tout. »
Et nous entrons maintenant dans le partage biblique. Alors David, dis-nous en plus sur cette thématique du berger, des moutons, etc.
Alors, c'est une thématique qui m'est chère, mais permettez-moi de commencer avec une petite histoire. Une histoire qui m'est arrivée à moi. Lorsque j'étais étudiant en région parisienne, tous les midis, en fait, j'avais cette habitude d'aller dans une boulangerie en particulier. Parce que voilà, c'était la meilleure boulangerie du coin. Et puis, je prenais toujours ce menu qui coûtait, si je me souviens bien, 9,90€. Voilà. Et du coup, des fois, dans le fait qu'on soit pressé, ben, du coup, on donne 10€ et on dit garder la monnaie. Voilà. On se dit, c'est 10 centimes, c'est pas... Ça reste, voilà. Et au fil du temps, un jour, je me rends dans une petite épicerie et je prends quelques aliments. Et là, je remarque qu'il me manque, rendez-vous compte, 10 centimes. Et là, je me suis rappelé de toutes les fois où je me suis dit, bah, 10 centimes, c'est pas grand-chose, en fait. Donc, voilà, je vais de l'avant. Du coup, j'ai dû payer par carte bancaire. Et à ce moment-là, je me suis rappelé qu'en fait, avoir presque une somme, ce n'est pas avoir la somme, en fait. C'est-à-dire que si j'ai 9,90€, je n'ai pas 10. Vous voyez ? Et ça m'a rappelé l'importance des petites choses. Et c'est cette méditation-là que j'ai envie de vous partager parce que ça m'a inspiré cette histoire que vous connaissez certainement, qui est l'histoire des brebis, de ce troupeau de 100 brebis que le berger avait. C'est une histoire que Jésus raconte. Et vous savez ce qui se passe ? Ne voilà-t-il pas qu'il y a une brebis qui quitte le troupeau ? Et on se retrouve avec 99 brebis, n'est-ce pas ? Et là, que va faire ce berger ? Il va aller chercher cette unique brebis qui est perdue. Et là, peut-être que je vous pose cette question, c'est est-ce que ce berger a raison de faire ça ? Est-ce que ce berger a raison de faire ça ? Est-ce que ça vous paraît normal ?
Bah moi, j'aurais crainte que quand ils partent, sur les 99, 99 autres brebis, il y en a encore 2-3 qui s'échappent, alors. Voilà.
Mais voilà, moi je me suis dit, c'est pas normal en fait, justement, de prendre ce risque. Le risque, il est vraiment trop grand de délaisser 99 brebis pour une seule. Mais en fait, je me suis posé la question à l'envers. C'est lorsqu'on comprend qui est ce berger, on sait pourquoi il fait cette démarche. Parce que ce berger, il aime chacune de ses brebis. Et en fait, c'est l'amour qui lui pousse à laisser les 99 autres toutes seules pour aller chercher une unique brebis. Pourquoi ? Parce que le troupeau, c'est pas 99 brebis. Le troupeau, c'est les 100 brebis. Et le berger, lui, veut garder son troupeau. Et voilà, ça m'a inspiré cette thématique de vous dire que presque n'est jamais tout. Avoir presque quelque chose, ce n'est pas avoir la chose. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec Jésus, il n'y a pas de presque. Jésus ne nous a pas presque aimés. Il ne nous a pas presque sauvés. Jésus est vraiment dans le fait de tout donner. Et c'est cette réflexion qui m'habite. Et je vais vous partager cette image qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. C'est pas un livre qu'on lit souvent, mais il y a quelques histoires qui sont intéressantes, qui interpellent en fait. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jephté. Peut-être que c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est un personnage qui est important, puisque même dans le Nouveau Testament, on en parle. Donc je suis allé voir qu'a fait cet homme. Et dans le livre de Juges, je vous donne un peu un contexte, dans Juges chapitre 10 et le verset 7, on nous dit que le Seigneur va se mettre en colère contre Israël, et le Seigneur vendit aux Philistins, c'est-à-dire aux ennemis d'Israël, le peuple d'Israël. C'est assez violent quand même. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se manifeste, qui commence, Et on nous dit que c'est le Seigneur qui a permis, qui a laissé faire qu'il y ait cette guerre. Et là, on est dans le livre de Juges, toujours au chapitre 11 maintenant, et au premier verset, voici ce que le texte nous dit. On nous dit qu'il y avait Jephté, un Galaadite, donc qui habite à Galaad, et était un vaillant guerrier. Intéressant. Il était fils d'une prostituée, d'accord. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. Le texte nous parle d'un homme qui s'appelle Jephté, qui vient de la tribu de Galaad, et on comprend tout de suite que Jephté et ses frères ne sont pas frères du même sang. C'est-à-dire qu'ils ont le même père, Galaad, mais ils n'ont pas la même mère. On ne nous dit pas plus sur qui est la mère de Jephté, on sait juste qu'elle est une prostituée. Mais toujours dans ce premier verset, on nous dit que Jephté est un vaillant guerrier. Et cette précision n'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans la Bible, lorsque vous voyez des détails comme ça, je pense notamment à la reine Esther, on lui disait que c'était une femme belle de figure. C'était des détails pour vous dire que c'était une information, une vérité connue de tous. Et en l'occurrence, pour Jephté, on ne dit pas s'il est beau de figure, hein, mais on nous dit que c'est un vaillant guerrier. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour ça. Et le verset 2 de Juges 11 nous dit « La femme d'un Galaad lui donna des fils. Et les fils de cette femme, qui, devenus grands, vont chasser Jephté et lui dire « Tu n'auras pas de patrimoine dans la maison d'un autre père. Pourquoi ? Car tu es le fils d'une autre femme. » Les frères de Jephté vont le chasser littéralement de sa maison, de son pays, de son territoire. Et il va devenir quelqu'un qui erre, en fait. Lui qui était le fils de Galaad, donc le fils du responsable de la tribu, il se voit chassé. Et une forme de discrimination, parce que est-ce que Jephté a choisi d'avoir une mère qui est dite prostituée ? Non. En fait, et bien souvent, ça arrive que des personnes soient discriminées pour des choses qu'elles n'ont même pas commises. Et je pense que vous avez tous un exemple qui vous vient en tête. Ça peut être un enfant qui est stigmatisé dans la cour de récré par rapport à un accent, par rapport à une manière de s'habiller. Est-ce que c'est des choses qu'il a choisies ? Non. Et pourtant, il va être stigmatisé. Et Jephté va être lui aussi exclu du groupe. Et il va se retrouver avec des hommes qui sont comme lui, qui errent. Mais souvenons-nous que Jephté est un vaillant guerrier. Et il va se forger ce mental-là. Et c'est vrai qu'en lisant cette histoire de Juge 11, je me suis posé la question, est-ce que nous aussi, nous ne stigmatisons pas les autres ? Ne stigmatisons pas les autres, par rapport justement à une manière de voir les choses, par rapport à quelque chose qui est différent de nous. Et tout de suite, on va, peut-être par peur ou par facilité, l'exclure, sans même essayer de rentrer en dialogue avec cette personne. Et je m'inclus, hein, remarquez bien, je m'inclus dans ce « nous ». Et je me suis posé la question en réfléchissant avec des amis, pourquoi il y a des personnes qui peuvent quitter l'Église ? Et il y a un élément qui revient souvent, vous savez, c'est quoi ? C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. En tout cas, c'est la réflexion qu'on a eue avec des amis. Et en ayant cela en tête, le manque d'amour, c'est des éléments qui revenaient. Je me suis dit, mais quand bien même nous aurions la meilleure compréhension, la meilleure théologie, la meilleure révélation prophétique sur des sujets, je crois que si on n'a pas l'amour, je crois qu'on a raté un peu le cœur de l'évangile. Et ça m'a interpellé parce que, voilà, on connaît tous des personnes qui ont plus ou moins quitté l'Église pour toutes les raisons qui sont propres. Hein. Et là, je me suis posé la question, mais quel regard Jésus poserait sur nous ? Parce que le texte nous dit que j'aurai le regard sur toi. Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Et lorsque nous pouvons glisser dans ces pratiques-là, quel regard que Jésus porte sur moi à ce moment-là ? C'est vraiment une introspection qui m'a animé à un moment pour essayer d'être plus juste dans mes relations avec les autres. Et je me pose la question, est-ce que j'arrive à refléter l'amour de Dieu dans mes paroles, dans mes actions, dans mes regards, dans mes silences aussi ? Ou est-ce que j'agis à contrario comme les frères de Jephté ? Est-ce que j'exclus direct ? Parce que je ne veux pas que cette personne prenne l'espace, prenne la lumière. Jephté va être chassé par ses propres frères. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Il va être chassé par ses propres frères. La violence que Jephté a subie, elle est réelle à ce moment-là. Et Jephté va connaître cela. Mais rappelez-vous, mes amis, c'est que le peuple d'Israël, il est en guerre. Le peuple, il est en guerre. Et lorsqu'on comprend que le texte s'ouvre avec ce premier verset en disant « Il y a un homme qui s'appelle Jephté qui est un vaillant guerrier. »
Ah, ça peut bien tomber, là.
En fait, tout de suite, on se dit, mais l'homme providentiel, c'est Jephté. puisque le peuple est en guerre et on a besoin de quelqu'un pour nous défendre, ah, ben il y a Jephthé qui est un vaillant guerrier. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que Jephthé, il n'est plus là. Jephthé, il n'est plus en Israël. Il a été chassé, je vous dis, pas seulement de chez lui, mais de tout le pays. Donc Jephthé n'est plus là. Il a été banni de tout Galaad. Et maintenant que le peuple est menacé, ne voilà-t-il pas, qu'est-ce qui se passe ? On se souvient de Jephthé. On se souvient de Jephthé dans les versets 4 et 5. Le texte nous dit que quelques temps plus tard, les Ammonites, qui sont les ennemis d'Israël, firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites firent la guerre à Israël, ils viennent se mettre à la frontière. Israël, c'est toutes les tribus, vous voyez, d'accord ? Et ils viennent se mettre à la frontière. Et la tribu qui est à la frontière, c'est la tribu de Galaad. Et là, verset 6, ils viennent voir Jephthé, les anciens, ils disent « Viens, tu seras notre capitaine, et nous ferons la guerre aux Ammonites. » Et le verset 7, remarquez la réponse de Jephthé, il va dire « N'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» En fait, Jephthé, il n'est pas dupe. Il sait très bien que ce n'est pas une visite de courtoisie. Il sait très bien que si on fait l'appel à lui, c'est parce qu'il y a un besoin. Et le verset 8, les anciens de Galaad vont dire à Jephthé « Oui, c'est pour cela que nous sommes venus. On va être transparent avec toi. Maintenant, viens, marche avec nous, combat les fils d'Ammon, c'est-à-dire l'ennemi, et tu seras notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit changement dans l'histoire. Au début, ils ont dit à Jephthé « Viens, tu seras notre capitaine. » C'est-à-dire le commandant de guerre. Et Jephthé, lui, c'est pas ce qu'il veut. Parce qu'il est fils de Galaad, du responsable de toute la tribu. Et là, ils changent la proposition, ils disent « Non, tu ne seras pas notre capitaine, tu seras le chef de tout le pays. » Autrement dit, si on peut l'imager, c'est comme le président de la République. On n'est plus sur le chef militaire, on est sur le responsable de toute la tribu. Et en plaçant Jephthé, justement, à la tête de Galaad, Jephthé va en quelque sorte être réhabilité dans sa position qui lui revenait de droit, en fait. Il n'a pas volé cette place. Et lorsqu'on regarde le verset 9 de Juges 11 toujours, Jephthé va dire aux anciens de Galaad qui sont venus le voir, « Si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites, donc aux ennemis d'Israël, et que le Seigneur les livre devant moi, alors je serai votre chef. » Moi, ce verset m'a interpellé pour deux raisons. Parce que, premièrement, c'est justement le Seigneur qui a provoqué, qui a laissé faire cette guerre face à Israël. Et là, Jephthé va dire, mais c'est si le Seigneur me permet de gagner cette guerre. C'est intéressant. Et deuxièmement, quelque chose qui est frappant lorsqu'on lit tout le chapitre 11, la seule fois où quelqu'un parle de Dieu, c'est Jephthé. Or, c'est celui qui est banni du territoire où on adore Dieu. Ça m'interpelle. Parce que alors que Jephthé, il est banni, je vous dis bien, pas uniquement de chez lui, du territoire, donc il est hors d'Israël, donc tous ceux qui sont hors d'Israël, c'est des païens. Il arrive pour dire, mais avant tout, avant de parler de guerre, moi je vais prier. Je vais demander à Dieu que sa volonté soit faite. Et là, ça montre une chose, c'est-à-dire que même si Jephthé avait été chassé du territoire, il a gardé sa relation avec Dieu. Et ça, c'est un exemple pour nous, c'est un témoignage pour nous. Et Jephthé va être rétabli dans son poste, dans sa position de responsable de la tribu. Et peut-être que les difficultés que Jephthé a subies dans sa vie l'ont aussi aidé à garder cette relation avec Dieu. Parce que généralement, c'est lorsqu'on passe par des moments difficiles aussi qu'on se raccroche à Dieu et qui est présent dans nos vies. Et là, peut-être que je pose la question, qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour nous ? Est-ce que ma foi dépend de l'Église ? Est-ce que ma foi dépend de la communauté ? C'est-à-dire que si demain j'étais amené à déménager, loin de mes amis, loin de ceux qui me sont chers dans la communauté, est-ce que ma relation avec Dieu serait impactée ? Vous voyez ? Jephthé nous donne un exemple. Même s'il est déraciné de là où il venait, sa foi a été intacte, voire même renforcée. Et l'histoire de Jephthé, c'est une histoire qui est tellement riche. Bon, on aurait tellement de choses à dire, mais en l'étudiant, je me suis rendu compte que bien souvent, on peut classer les gens, on peut classer des personnes. On va les considérer peut-être pas assez spirituels, peut-être pas assez affermis, peut-être pas assez bien, et on aura peut-être toutes les raisons du monde. Mais ce que je comprends dans l'histoire de Jephthé, c'est que c'est ces personnes que nous avons classées à un moment donné, pas assez bien, pas assez spirituelles ou autres, c'est ces personnes que Dieu peut utiliser pour nous donner un enseignement, pour nous aider dans une situation donnée. Et ça nous interpelle de nous dire, est-ce que j'arrive à témoigner de l'amour, même pour des personnes qui sont différentes de moi, différentes de ma vision? Et vous savez, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce même Jephté qui, je le rappelle, fils d'une prostituée, donc quelqu'un qui, voilà, qui pour un territoire comme Israël, c'est très mal vu, il est cité comme un héros de la foi dans le livre de Hébreux. C'est-à-dire que lorsque vous lisez Hébreux 11, vous voyez Abraham, David, Moïse, et là, il y a Jephté. C'est-à-dire que Jephté a réussi à faire sa place au même titre tous les personnages qu'on connaît qui ont eu une foi énorme en Dieu. Ah ben oui, Jephté est là. Et je crois que c'est un enseignement, encore une fois, pour chacun d'entre nous. Il y a Jésus qui disait dans l'évangile de Jean, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et je nous rappelle que le berger, c'est avant tout Jésus. C'est Jésus. C'est pas les membres, c'est pas le pasteur, c'est Jésus avant tout. Et je nous invite vraiment, tout à chacun, à reconsidérer la manière que nous avons traité des personnes qui ont peut-être quitté l'Église. Peut-être qu'il y a des noms qui vous viennent en tête à ce moment-là. Le but, ce n'est pas juste de se réconcilier, regardez bien, c'est de réhabiliter la personne, la reconsidérer pour ce qu'elle est. Parce qu'à la fin, Jésus, il vient chercher presque le troupeau ou tout le troupeau. Avoir les 99 brebis, on n'a pas le troupeau. Jésus vient chercher tout le troupeau. C'est la réflexion que je dépose sur vos cœurs. Et je prie que le Saint-Esprit puisse germer, faire germer ces réflexions pour sa gloire.
Nous sommes de retour dans notre culte espoir. Alors aujourd'hui, notre invité David Redoutmaï nous a proposé un partage biblique autour du texte de Matthieu 18, versets 12 et 13. Un berger qui a 100 brebis, l'une d'elles s'est égarée. Alors, le berger met en sécurité les 99 autres, les 99 autres, et il part à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il la ramène dans la joie auprès de ce troupeau. Alors les chroniqueurs, qu'est-ce que vous avez retenu de ce partage? Qu'est-ce que vous avez découvert ou souligné? Je vous écoute.
Moi, je trouve ça beau aussi parce que on voit aussi qu'il y a différentes formes de foi. Il y a une foi qui est certes collective, mais il y a aussi une foi qui est personnelle. Et c'est cette foi que Jephté, justement, a continué de cultiver, malgré tout. Et c'est à la fin, finalement, que les deux se mêlent, les deux fois se mêlent, pour finir avec une foi qui est encore plus grande, pour finir comme un père de la foi, finalement. Je trouve ça vraiment beau, dans un sens. Et même si, malgré tout, il a quand même vécu quelque chose qui était assez dur, d'être rejeté, à la fin, on voit que tout se finit super bien, en fait. Et Dieu prépare des plans aussi pour que Les choses se finissent bien, généralement.
Et je peux revenir, vraiment continuer avec ta réflexion, c'est que quand il est parti, et ça c'est aussi la brebis, de temps en temps on peut s'égarer, soit par soi-même, soit quelqu'un nous pousse, on peut à côté, ça arrive, c'est qu'il faut garder ce lien avec Dieu. C'est vraiment personnel, c'est la foi vraiment personnelle. Et là, si on est dans l'église, ou dans le troupeau, ou en dehors du troupeau, on a besoin de cette foi-là. Et parfois, oui, on déménage, là je viens de déménager, changer de ville, changer, il y a une nouvelle église, donc c'est vrai que parfois c'est difficile de rentrer dans un groupe. Et si on a vraiment cette foi-là qu'elle a, qu'on tient cette foi-là, même de temps en temps, parfois c'est difficile de rentrer, on garde la foi et au moment voulu, peut-être Dieu va ouvrir les portes parce que peut-être on a besoin de nous. Peut-être, ah, cette personne, ah, j'ai vu cette personne, elle est très bien, donc on va l'appeler pour l'aider. Donc c'est très important de garder cette... pour moi, j'ai vu vraiment cette partie-là de garder cette foi, de tenir à Dieu personnellement et le reste va venir.
On a, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'exemples de personnes que j'ai connues ou un peu moins connues, mais qui ont quitté l'église hein, et qui parfois ont ce courage de revenir pour visiter l'église à un moment donné ou à un autre. Et je trouve que c'est pas facile et que c'est très courageux de pouvoir le faire sans savoir finalement quel va être l'accueil de cette église qui a pu leur faire du mal hein, quelque part et participer au fait que ben ils soient partis. Et moi, j'aimerais m'adresser à nos auditeurs, qui qu'ils soient, et quelle que soit la situation qu'ils ont pu vivre aujourd'hui. L'Église, malheureusement, est faite d'humains. On est tous, en tant que chrétiens, en tout cas, faillibles. On ne reflète pas toujours les valeurs de Dieu, malheureusement. Et j'aimerais peut-être aussi, d'une manière un peu particulière, demander pardon, en fait, à ces membres qui sont partis. Mais peut-être aussi en invitant justement ces personnes qui ont été déçues, qui ont été abîmées peut-être aussi par cette vie d'église qui leur a pas vraiment correspondu à un moment donné et qui leur a fait du mal, et ben de continuer à vivre quelque chose avec Dieu parce que l'essentiel est vraiment là. Et pourquoi pas peut-être essayer de reconnecter avec cette église. Je crois qu'il y a des demandes de pardon qui doivent aussi se faire de la part des capitaines des églises, en tout cas, parce que c'est important. Et tu parlais notamment de cette question de la réhabilitation, et je crois qu'elle est vraiment essentielle aujourd'hui.
Oui, totalement. C'est-à-dire, comme je disais, le tout, c'est la réconciliation, c'est la première étape. Mais réconcilier, c'est bien. Réhabiliter, c'est mieux. Intégrer. C'est bon de faire ce premier pas, de demander pardon. Et je crois qu'il faut le faire. On a tous des personnes en tête. Ouais. Mais maintenant que cette démarche... Et le pardon, d'abord, il est mutuel. Hein. On a des torts des deux côtés, toujours. Mais ensuite, inviter et réhabiliter. Considérer la personne vraiment et voir ce qu'elle peut apporter. Parce que Dieu voit ce qu'elle va apporter déjà. C'est surtout ça.
Merci.
Et juste une petite chose, parce que là, avec cette parabole, j'ai des enfants, donc je vois une vidéo qu'un berger, une brebis part, le berger va le ramener, et quand elle ramène, toutes les autres brebis sont heureuses.
Oui.
Ils font la fête avec celle-là. Ouais, c'est cette image-là, elle est, pour moi, je trouve vraiment touchante, parce qu'on voit, même si elle est partie, ok, elle est revenue, elle est entre nous, donc on va faire la fête. Et Dieu, en plusieurs paraboles, il explique Jésus, il est pure parabole. Quand il revient, on fait la fête, parce que c'est important quand la personne revient.
Exact.
On fait la fête. Le passé, on va dire, c'est le passé. L'important que tu es là, et on va faire la fête.
Ouais, célébrer ce qui devient.
Oui.
Et c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi une chose qui est vraiment forte chez GFT, c'est que l'amour, en fait, finalement, qu'il a pour son peuple, c'est-à-dire que même quand il s'est fait rejeter, même quand il a peut-être vécu des traumatismes avec ces personnes qui l'ont vraiment rejeté et vraiment mis à part. Et une fois que là, ils ont besoin de lui, ils viennent, ils lui demandent. Lui, il arrive quand même à pardonner aussi de son côté.
Ouais,
et à vraiment avancer avec amour et leur dire « Ok, je vous protégerai, j'irai en guerre pour vous. » Enfin, je trouve ça franchement magnifique de la part de GFT, quoi.
C'est clair. Merci pour ces partages.
Donc, dans cette semaine, j'aimerais continuer à parler de berger, pasteur, aussi le psaume 23. Parce qu'il y a quelques temps, nous avons lu un livre avec mes enfants, Samy et son berger. Mais avant de parler de ce livre, j'aimerais juste parler un petit peu de son auteur, parce que c'est très important de savoir qui écrit un livre. Elle s'appelle Susan Hunt, elle est auteure conférencière chrétienne qui concentre son éducation spirituelle des enfants et des femmes. Elle a écrit plus d'une vingtaine de livres, y compris celui-là le plus fameux, c'est Samy et son berger, qui est devenu vraiment aux États-Unis, un classique pour les enfants des églises et des écoles chrétiennes. Donc elle a commencé sa carrière en tant qu'éducatrice, mais rapidement a été appelée à travailler au ministère de l'église, développer les passions de l'éducation spirituelle des enfants, aussi plusieurs directrices des ministères des enfants, de femmes, donc plusieurs dans l'église et aussi dans toute la partie Amérique de l'église presbytérienne. Donc au fil de Suzanne, elle a vraiment essayé de vraiment fixer et aussi utiliser toute vraiment sa connaissance et mettre en pratique pour que les enfants puissent comprendre vraiment la liaison entre Jésus et les enfants, comment on va vivre. Et donc elle était vraiment très connue. Et on peut constater que la vie de Suzanne est vraiment tournée vers Dieu. Et quand on lit ses livres, surtout Samy et son berger, on voit très bien quel est son objectif. Donc vraiment, je parlais du fameux livre Samy et son berger.
On l'attend.
Car on a vraiment l'histoire d'un petit mouton qui s'appelle Samy et son berger, bien sûr. Donc l'auteur de cette histoire touchante enseigne aux enfants une relation intime entre Jésus et les chrétiens et l'importance de faire confiance à Jésus comme notre berger. Donc Samy, il grandit, il apprend à faire confiance à son berger, qui le protège des dangers de la vie des pâturages. Tout au long de l'histoire, Samy découvre que son berger le connaît bien, qu'il le guide avec sagesse et amour, il est toujours là pour lui, même dans le moment difficile. Et Samy a l'opportunité d'aider une nouvelle brebis, qui ne connaît pas ce pasteur-là. Il connaît un autre pasteur qui n'est pas très bien, qui n'occupe pas d'elle. Donc il est là aussi pour l'aider, pour avec son expérience montrer qui est vraiment le bon pasteur. Donc être vraiment à travers de cette histoire Samy, les enfants apprennent à voir Jésus comme leur berger, lui faire confiance, de les guider, les protéger. Il utilise des exemples concrets de la vie de Samy pour aider les enfants à comprendre. Et aussi, à la fin de chaque chapitre, les enfants, elles posent des questions aux enfants, que les parents peuvent poser aux questions pour comprendre s'il a bien compris le but de chaque verset, pourquoi elle a dit comme ça. Donc c'est une histoire vraiment touchante, mes enfants ont adoré, et c'est un moment que je conseille aux familles, et même pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant les livres. C'est que faire ce moment en famille, que vraiment c'est un moment très bien qu'on peut vivre, et les enfants vont vraiment aimer.
Merci à David, merci à vous tous pour ce que vous nous avez apporté, et ce sont clairement des éléments qui, je pense, enrichiront vraiment notre vision sur l'amour que Dieu nous porte. Alors sur ce, David, pourrais-tu nous unir dans la prière ?
Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous maintiens en ce moment, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets de vivre, où tu nous interpelles toi-même sur nos relations aux autres, ce que nous témoignons l'amour de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à refléter ton image, à être des éléments sur lesquels tu peux compter, et que chacun et chacune de celles et ceux qui ont pu quitter le troupeau, certainement peut-être à cause du troupeau aussi, puissent se sentir touchés par toi, par ton Saint-Esprit. Et si telle est ta volonté, qu'elles puissent revenir aussi, et que nous puissions toutes les accueillir et célébrer tous ensemble. C'est ma prière en ton nom. Amen.
Donc cette semaine, maintenant, dans la chronique Action, je vous propose d'être des brebis, mais bienveillance. Vraiment aider à une autre personne. Donc c'est vrai, à l'arrivée d'une nouvelle personne dans notre communauté, ou qu'elle revienne, ou dans le travail, une nouvelle personne qui arrive, dans le voisinage. Vraiment, parfois, c'est déroutant pour la personne qui arrive dans un groupe, et surtout dans un groupe fermé, c'est compliqué de rentrer. Donc, et en plus, en ayant vécu, il n'y a pas longtemps, un nouveau travail, une nouvelle église, donc je comprends très bien que c'est très important d'être soutenu, d'être là pour nous. Donc, cette semaine, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à une personne que tu pourrais aider. Vraiment, offrir ton aide. Quel que ce soit, peut-être juste un sourire, juste une bienvenue, vous montrer des choses, un nouveau voisin, apporter un pain ou un gâteau, vraiment la bienvenue. Et vraiment là, en faisant ça, on va suivre vraiment ce que notre berger nous demande de faire, de vraiment s'occuper des autres, être là. Donc soyons vraiment des brebis bienveillantes et à toi de jouer.
Excellent. Merci Stéphane pour cette action. Elle me parle particulièrement dans mon travail. Notamment, on est en train de mettre en place, en tout cas, une politique RH. Donc, de quelle manière est-ce que, notamment, on accueille les nouveaux collaborateurs? Et puis, quelle suite, en fait, quel accompagnement on propose? Je trouve ça vraiment super. C'est un sacré défi. Et je crois que, comme tu dis, ça se transpose dans l'associatif, ça se transpose dans une église, dans une famille. Voilà, quand on reçoit une nouvelle belle-sœur, des choses comme ça, dans une famille, il y a toujours des ajustements justement à faire, et je trouve très très intéressant. Alors, bonne action en tout cas pour chacun de nous, ça va nous mettre en mouvement pour cette semaine, c'est clair. Nous voilà à la fin de notre culte espoir. J'espère qu'il t'a fait du bien, qu'il t'a parlé, qu'il t'a encouragé. Je remercie particulièrement nos chroniqueurs du jour, Donovan. Merci. Merci Stéphane aussi.
Et merci à vous.
Je remercie aussi David Redoutmaï pour le partage biblique que tu nous as apporté.
Plaisir, merci.
Merci
beaucoup.
Vraiment beaucoup. Soyons bénis pour cette nouvelle semaine qui nous attend. Est-ce qu'on peut faire peut-être juste un petit tour de table avec un mot-clé à ressortir chacun d'entre nous pour terminer ce culte ensemble?
Je dirais persévérance.
Se tenir à Dieu.
Je dirais confiance.
Et moi, je terminerai par le mot amour. Voilà. Auditrice, auditeur, je te souhaite une semaine accompagnée par Dieu, notre berger à tes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau culte espoir. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.